Le pois fleuri. Il y a dans la Vendée un pays qui s'appelle Beauvoir. Il y avait avant la Révolution, qui fut suivie de la Grande Guerre, un curé du pays de Beauvoir qui s'était fait remarquer, comme il arrive, par son zèle et sa grande piété. Sa paroisse lui donnait beaucoup de mal, non qu'elle fût trop peuplée, mais elle était presque toute découpée dans une terre que la mer avait autrefois couverte, et qui restait marais, traversée d'innombrables canaux qu'il fallait sauter à la perche, pleine de fondrières cachées par les roseaux, et si triste d'aspect, au moins pendant l'hiver, que l'abbé Sigournet, bien qu'il eût l'âme portée à l'espoir et à la belle humeur, ne pouvait regarder devant lui sans éprouver un serrement de cœur.
Parmi ses ambitions terrestres, le bon curé n'en avait pas de plus chère, ni de plus inutilement poursuivie que celle de donner son nom à une plante nouvelle, et surtout de créer lui-même cette plante.
De la composer, grâce au talent qu'il avait pour greffer,
écussonner
et pour opérer le mélange des graines.
Son petit jardin touchant la cure était un champ d'expérience, où l'abbé seul et les merles se reconnaissaient.
C'était si dru et si fouillu que nulle part on ne voyait la terre.
Elle était recouverte, sauf les étroits passages entre les massifs, d'une forêt de 3 pieds de haut, livrée, comme disait l'abbé, à toutes les énergies de la nature.
Les pieds d'alouette mouraient accablés par les volubilis.
Les groseilliers voisinaient avec les queues de renard.
Les chardons bleus avec les giroflées.
Les pâquerettes doubles avec les grandes tulipes virginales.
Quoi qu'il fît, il obtenait beaucoup de mauvaises herbes.
Beaucoup d'humidité, un parfum jusqu'à l'automne dont l'abbé Sigournet se délectait.
Plus de nids et plus de chansons d'oiseaux qu'aucun de ses confrères n'en avait.
Mais de plantes nouvelles, qu'il put appeler la Sigournette, le bon abbé n'en voyait pas.
L'abbé Sigournet n'avait rien à se reprocher vis-à-vis de ses paroissiens.
Il répondait toujours au moindre appel de l'un d'eux, soit de jour,
soit de nuit,
trouvait à l'occasion le conseil qu'il fallait pour les jeunes,
pour les vieux,
prêchait tout simplement les vérités de l'Évangile, et ne manquait jamais de donner l'aumône à ceux qui la demandaient.
Quand il n'avait plus d'argent, ce qui lui arrivait souvent, il donnait une mesure de graines de légumes récoltées au presbytère.
Sa peine n'en fut que plus profonde, lorsque les divisions produites par les premiers événements révolutionnaires vinrent détruire jusqu'en sa paroisse lointaine la bonne harmonie entre les gens qui, du jour au lendemain, se déclarèrent les uns blancs, les autres bleus. Jusque-là, il n'avait été que laboureur, pasteur, pêcheur d'anguilles ou ramasseur de varechs.
L'abbé Sigournet fut stupéfait de les voir sortir d'un naturel qu'il croyait immuable, et parler politique, et répéter des mots qui ne lui étaient point familiers à lui-même, bien qu'il sût lire le latin.
Malgré 3 beaux sermons qu'il prêcha sur l'union, il constata qu'une partie de sa paroisse s'était complètement séparée de lui. Il eut des ennemis, et à mesure que les jours passaient, cette injuste inimitié s'accroissait.
Il le sentait à beaucoup de signes, dont le principal était le regard de ses ouailles. Où était-il le temps où, du plus loin qu'on l'apercevait, suivant les talus ou passant les fossés, les hommes venaient à lui, contents, la mine ouverte et la main tendue?
Plusieurs de ceux auxquels il avait rendu service se détournaient de lui par crainte des délations. D'autres le menaçaient. Dans cette pénible épreuve, l'abbé Sigournet montra un grand courage.
Il résolut de ne pas faire comme d'autres de ses confrères, qui s'étaient cachés ou enfuis. Il décida en lui-même qu'il resterait dans sa paroisse et bêcherait son jardin tant qu'on voudrait bien lui laisser la vie.
En 1795, le jour de Pâques, l'abbé Sigournet, après avoir chanté la messe et les vêpres, se reposait dans son jardin sous un prunier. Il comptait sur ses doigts les malades auxquels, les jours précédents, il avait porté la communion, accompagné d'un petit gars de 14 ans, son servant de messe appelé Lambinet. Et il lui semblait bien que le nombre n'y était pas, lorsqu'une femme parut et dit
« Monsieur le curé, celui de chez nous n'a pas mangé depuis ce matin parce qu'il vous attend pour faire ses Pâques. »
« Quel âge a-t-il et quel est-il ? »
« 80 ans. Et c'est le grand-père de Lambinet, votre servant. »
« J'irai. »
« C'est que la route est longue, et voici la lumière qui décroît. Vous savez qu'il demeure à l'autre bout du marais ?
Peu importe. Je l'avais oublié, ton oncle. Mais je vais réparer. Je pars tout de suite. La femme reprit, ne voulant pas être cause d'un malheur.
Écoutez, il y a une patrouille de bleus qui garde la route de Saint-Jean-de-Mont. S'ils vous découvrent, ils vous tueront.
Ça n'empêche pas de partir. Et puis, Dieu sera du chemin.
Il sortit alors de dessous l'abri de son prunier. C'était un grand vieil homme, bâti comme ces rudes métayers, pour la fatigue de la vie, et dont la figure, toute ratatinée, toute jaunie, n'avait qu'une seule expression qui ne changeait jamais, celle d'une bonté triste, et que rien n'a pu tuer. Il passa devant la femme sans plus s'occuper d'elle, et regarda le soleil d'un air de dire « Pourvu que tu ne me laisses pas au milieu du marais. »
Une demi-heure après, il se mit en marche, portant une hostie consacrée qu'il avait renfermée dans un médaillon d'argent et pendue à son cou. Devant, à 10 pas, s'en allait, roulant d'une jambe sur l'autre et content d'être en danger de mort, le servant de messe, qui avait seulement 14 ans, mais toute la taille, toute la vaillance d'un homme, et des cheveux roux frisés et des yeux bleus de marin qui luisaient parmi les taches de rousseur. Les deux précautions qu'il avait prises, c'était de ne pas allumer la lanterne que Lambinet tenait comme une canne de confrérie par le haut de la hampe, et de prendre à travers champs les sentiers à tout moment coupés de canaux et de fossés.
Quel tranquille soir de Pâques! Les pousses de roseaux commençaient à crever les graines épuisées et mortes de l'an passé. Les moissons étaient hautes d'un pied. La lumière jaune du couchant se reflétait dans les eaux. Personne ne se montrait. La peur semblait avoir rendu déserte la campagne. L'abbé s'avançait bien droit, la tête seulement un peu inclinée sur la poitrine, cherchant le sommet des mauvais sentiers en dos d'âne qui endiguaient les fossés. Il ne faisait attention à nulle autre chose du chemin, pas même aux plantes semées de sa main et qui pouvaient, en cette soirée, être épanouies. Toute sa pensée était concentrée en une muette prière d'adoration. Et ils allaient, seuls dans le pays marécageux, leur silhouette grandit par l'ombre qui tombait. Cependant, comme le soleil allait se coucher, l'abbé Sigournet leva les yeux, et il aperçut devant lui un champ où le sentier finissait, et qui était à moitié vert et à moitié blanc. La partie verte portait une moisson assez basse, l'autre, au contraire, était recouverte d'une végétation haute, fleurie, mouvante au vent léger qui venait de la mer.
« Qu'est-ce cela ?»«
À droite ? » C'est un champ de lin, et à gauche, c'est un champ de haricots en fleurs. Il faudra passer à travers l'un ou l'autre, monsieur le curé. »
L'abbé ne répondit rien, par respect. Mais quand il arriva à l'endroit où le chemin se perdait et où commençait le labour, il vit 2 paysans qui étaient venus inspecter leurs biens et juger des récoltes futures. Il les reconnut et il pensa
« Quel est celui qui sera béni pour avoir ouvert son champ ?» au passage du bon Dieu. »
Et il avait à peine formulé en lui-même cette pensée que les deux hommes le tirèrent du doute. Le propriétaire du champ de haricots s'avança comme un furieux et cria
« Ne traverse pas ma récolte, curé, ou il t'arrivera malheur !» L'abbé Sigournet réprima la grande indignation qui se levait en son cœur. Il étendit seulement 3 doigts et bénit l'homme qui venait de parler.
Aussitôt le second, qui possédait le champ de lin et qui avait enlevé son grand chapeau, dit de sa place
« Mon lin va fleurir tout à l'heure, mais vous pouvez passer. Le bon Dieu, vous et votre servant. »
Le grand abbé Sigournet, la tête toute droite cette fois, dans l'ombre presque entièrement noire, s'avança dans le creux d'un sillon et trouva bientôt un autre sentier. Et il arriva, annoncé par la voix d'un chien, dans la petite ferme au toit de roseaux où habitait celui qui attendait ses Pâques. La lune, à moitié pleine, multipliée à l'infini par les flaques d'eau, les fossés et les étangs du pays plat, éclairait assez bien la campagne, lorsque le curé, vers 10 heures, se remit en route pour regagner le presbytère. Le servant de messe marchait à côté de lui, plus fier encore qu'à l'aller, portant sa lanterne allumée qui dansait sur les digues comme les follets de nuit. Il sifflait de temps en temps un petit air de chanson pour chasser le sommeil.
Ils parvinrent ainsi, peut-être 1 heure après le départ, à l'endroit où étaient le champ de lin et le champ de haricots. Dans le premier...